J'ai passé un temps de prière parce que j'avais plusieurs messages qui étaient dans mon cœur. Et je me suis enfermé dans ma chambre et je me suis dit, bon, bah, Seigneur, je fais quoi? Et donc, il y a un sujet qui, vous allez voir, qui est d'une évidence pour ceux qui ont tendance à venir déjà dimanche après dimanche, qui est sur la prière. Alors, vous doutez bien que c'est un sujet que je ne vais pas pouvoir développer en trois quarts d'heure. C'est un sujet qu'il faudrait une étude. Et puis aussi, donc je l'ai essayé de la faire la plus claire possible. Elle sera en trois points. Et aussi, elle va être de façon à qu'elle soit un peu interactive. Donc vous allez être interrogé. Ouh là là, ça y est. Partez pas, vous inquiétez pas. Non. Je voudrais juste vous mettre dans la situation. Parce que moi, j'ai envie de ranimer le désir personnel de venir rencontrer Dieu. C'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur et qui brûle, vous imaginez pas à quel point, de ranimer le désir personnel. C'est quelque chose de personnel, je ne peux pas vous obliger, comme Dieu n'a jamais obligé qui que ce soit, mais de ranimer, de rencontrer Dieu. En clair, ranimer la flamme. Alors ça a commencé par deux histoires toutes simples. Alors, pour ceux qui notent, je vais vous donner, et par moment, on lira la parole. Mais pour ceux qui veulent noter, j'ai commencé avec Ézéchiel 37, de 1 à 2. C'est l'histoire d'Ézéchiel où l'Esprit de Dieu l'emmène dans le désert où il y a des ossements. Nous, on connaît le reste de l'histoire, mais je voudrais qu'on s'arrête avant. Dieu le prend et le met dans un désert où il n'y a que la mort. Et j'ai fait un parallèle avec Philippe dans Actes 8, 26, où Dieu lui dit, va dans le désert. Mais il y a plein de monde là-bas où je peux parler de Dieu, à Jérusalem. Non, va dans le désert là, sur ce chemin. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur ces deux petits passages où, entre nous, mais qu'est-ce que je fais là? Nous, on connaît les histoires, donc limite, on n'a pas commencé le verset, qu'on connaît l'histoire. Mais mettons-nous à la place d'Ézéchiel et de Philippe, où vous vous retrouvez dans un désert où il n'y a que la mort, où il n'y a rien. Et là, vous pouvez demander à Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Ça vous est jamais arrivé, vous? Dans les temps actuels, où ce que nous traversons, que faisons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous nous réfugier? Faire l'autruche dans des activités et des occupations variées? Moi, je me suis retrouvé dans ce désert. Et j'ai cherché qu'une chose, c'est d'en sortir. C'était une erreur. Nous passons par des zones de désert, c'est parce que Dieu veut. À des plans, ou des fois pour discuter avec vous, et on connaît aussi bien que pour Philippe, il va rencontrer l'eunuque éthiopien, où il va lui expliquer la parole, ou Ézéchiel qui va prophétiser sur les ossements desséchés, où il va redonner la vie. Nous avons un Dieu de vie. Mais combien de fois nous traversons ces moments de désert? Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec la prière? Ben, on va commencer par une chose toute simple. Je voudrais vous donner des bases bibliques sur la prière. Ça va être mon premier point. Et on va commencer, comme le fait très bien mon frère Marc, par une définition. Qu'est-ce que veut dire le mot prière? Est-ce que les enfants ils le savent? Ou est-ce que vous le savez déjà? Je suis très étonné de beaucoup. Alors c'est bien parce que moi je travaille dans une société, donc je côtoie d'autres frères et sœurs, donc nous pouvons avoir des interactions et je suis souvent très étonné de savoir que beaucoup de choses élémentaires, mes frères et sœurs ne le savent pas. Qu'est-ce que veut dire prier? Est-ce que c'est tout un cérémonial, où il faut se mettre dans une tenue particulière, etc., etc., ou c'est quelque chose de plus simple? Allez, un courageux, une courageuse? Qu'est-ce que veut dire le mot prier? Alléluia! Parler avec Dieu. La définition du petit Larousse, parole par laquelle on s'adresse à Dieu. On parle à Dieu. comme on parle à votre époux, à votre épouse, comme on parle à nos enfants, comme nous parlons à nos collègues, comme nous parlons avec ceux qui nous entourent. Et Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons lui parler tout le temps. Alors, c'est bien. Mais qui est-ce qu'on prie? Qui prions-nous? Quels sont les attributs de Dieu? Ce sera un point. Quel est l'attribut de Dieu? Il est quoi Dieu? Quand on prie Dieu, c'est qui? C'est quoi? Amen. Allez. Il est saint. Il est bon. Il est fidèle. Voilà. Il y a toute une... On vient rencontrer un Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui est saint, qui est Seigneur, qui est grand, qui est puissant, qui est le Créateur, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout. Il est partout. Il est avec nous. Waouh ! Voici l'attribut de Dieu. Et je ne vous fais pas toute la liste parce que, comme je dis, nous n'avons point d'école du dimanche pour l'instant. Donc il faut que les messages puissent parler aux plus petits. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses? Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître Dieu, si on ne connaît pas une personne, on ne peut pas lui parler. Ou c'est très difficile. On ne connaît pas ses envies, on ne connaît pas ce qu'il a envie, on ne sait pas s'il aime le café, le thé ou le chocolat, on ne sait pas s'il aime le chaud ou le froid, on ne sait pas s'il aime parler ou pas, on ne sait pas si... etc., etc. Si on ne connaît pas, on ne peut pas, ou c'est compliqué. Connaître Dieu, c'est déjà de dire, ah oui, mais attends, Dieu, tu es grand, tu es en tout temps, tu es présent, tu es saint. Ah ouais, c'est ce Dieu que je vais, à qui je vais parler. C'est le Père aussi, qui nous a adoptés. C'est le Père qui nous a adoptés, qui nous aime, qui a tout créé, le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Les enfants qu'on chérit, l'épouse qu'on a à côté, l'air que je respire, le repas que je prends chaque jour, l'eau qui coule dans ma douche, le réfrigérateur, servante extraordinaire qui me garde les plats au frais et les fours qui me les réchauffent quand j'en ai besoin. C'est quand même Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes de créer. Parce que si on cherche un peu, l'homme n'a fait que reproduire ce que Dieu a créé. Le Fils, encore un attribut. La grâce qu'il nous a accordée par la croix, par son sang. C'est un attribut. Le Père, le Fils, et bien sûr le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, qui est notre aide, qui nous révèle le Père et le Fils. Donc quand on vient dans sa présence, quand on vient rencontrer Dieu, voilà qui est les attributs de Dieu. Quelles sont les bases bibliques? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'un seul coup, déjà nos prières peuvent changer. Elles peuvent prendre de la valeur. Alors après, on a fait un deuxième petit point, qui est le temps. Le temps de prière personnelle dans le lieu secret. Dans Matthieu 6:6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, dans le secret de ta chambre, ton Père t'attend. Et là, on va faire un petit jeu. Moi, j'aime bien les petits jeux, quoi. Donc, dans Matthieu 6:6, qui dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Il y a un échange. Alors, quels sont vos lieux de prédilection pour prier? Allez. Est-ce que vous avez des lieux où vous avez plus l'habitude de prier que d'autres? Moi, j'en ai énuméré. Oui, Maëlle? Dans? J'ai pas. Dans l'angle? Avant de manger. J'entendais pas. Donc lui, il aime bien avant manger qu'on prie. dans sa chambre. Est-ce qu'il y a d'autres lieux pour certains? Oui, dans la voiture. En forêt, effectivement. Y a-t-il d'autres lieux pour vous où vous vous sentez plus qu'en communion, vous cherchez Dieu? Dans un endroit calme? Oui, la chambre est tout à fait. Alors moi, je vais vous étonner. Dans l'église, eh ben moi, pendant longtemps, mon endroit de prédilection, c'était les toilettes. Surtout quand j'étais dans ma belle famille qui ne croit pas en Dieu. Alors le problème c'est que c'est à des temps un peu courts, on ne peut pas y rester pendant 2 heures, vous y doutez bien. Mais c'était à un endroit un peu clos où je pouvais prendre du temps avec Dieu, reprendre une bouffée d'air. C'est un peu étonnant, mais moi je vous le dis. Donc moi y a, actuellement, maintenant j'ai mon salon, parce que je me lève tôt le matin, donc je laisse ma femme tranquille quand même dormir. Et j'ai mon salon. Mon salon est vraiment un lieu où j'aime me présenter devant Dieu. Il y a certains, ça va être donc la voiture, mais il y a aussi le train. Moi, j'en connais que c'était dans leur cuisine. Ma mère pourrait lui poser la question, c'était dans sa buanderie. C'était son coin. Elle mettait de la louange, c'était ici qu'elle venait rencontrer Dieu, plus qu'ailleurs. J'ai connu quelqu'un, lui, c'était dans son atelier. Il sortait de sa maison, c'était dans son atelier. Et là, il vient rencontrer Dieu, etc. Il n'y a pas de lieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu se trouve en tout lieu. Il est tout le temps avec nous et il n'attend que ça. Mais il y a des lieux comme ça. Alors, après, il y a trouver le moment adéquat. Alors là, c'est une autre histoire. Le matin, le soir, la nuit, le jour, à midi, il y a cette recherche avec Dieu de par rapport à notre vie, de trouver un moment de consacrer à Dieu. Parce que si nous ne le mettons pas dans notre planning, je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas de place. Entre le travail, les transports, la vie de famille, le manger, le sport ou je ne sais quoi d'autre, un peu de divertissement, parce qu'on a le droit de se détendre un peu quand même. Ah mince, j'ai pas prévu le temps pour Dieu. Et combien, au jour d'aujourd'hui, nous avons des plannings qui sont faits sans Dieu. Ou après on dit, attends, je vais essayer de te trouver une petite place entre, allez, 13h15 et 13h25. Est-ce que c'est pas Dieu qui vous a créé? Est-ce que c'est pas Dieu qui vous a donné la vie? Est-ce que c'est pas Dieu qui t'a donné un époux, une épouse? Est-ce que c'est pas Dieu qui t'a donné un travail? Et tu lui laisses quoi? 5 minutes dans ton emploi du temps? Et encore, si tu arrives à le respecter? Si on ne prend pas et on ne met pas un temps et de chercher en fonction des uns et des autres, ça va être pas pareil. Mais si on ne met pas cette volonté de prendre du temps à part pour Dieu, trop souvent nous ne l'aurons pas. Et puis après, il y a la position. Alors, c'est vraiment du factuel hein, que je vous dis. Hein. Après, on va aller un peu plus loin. Il y a la position, il y a les fans, on va dire ceux qui sont très virulents et qui vont dire c'est à genoux qu'il faut prier. Il y a ceux qui vont dire, oui, mais moi ça plavante devant le Seigneur. Ben, il y a ceux qu'en forêt, vaut mieux être debout. Hein. Surtout quand il y a l'automne avec les châtaignes qui tombent. Bon courage. Il n'y a pas de position plus qu'une autre. Il est vrai que la parole dira, il y a des positions plus de soumission. Mais en fonction de là où on est, si vous êtes au travail, vous êtes dans la voiture ou dans le train, ça va être compliqué de vous mettre à genoux. Ou encore plus à plat ventre. Là, c'est Seigneur, conduis la voiture pendant que je te prie. Je ne pense pas que c'est ça qu'il nous dit de faire. Mais il n'y a pas de position si ce n'est une position de cœur. Si ce n'est une position de cœur de vouloir le rencontrer. Parce que dans ce cas-là, on devient des religieux. Donc j'ai mon moment, j'ai ma position, j'ai ci, j'ai ça. En fait, je coche toutes les cases, mais le cœur n'y est pas. C'est bien ceux qui l'adorent en esprit et en vérité que Dieu agrée. Amen. Je vous donnerai un exemple plus tard, justement, de position assez particulière. La Bible dit de fermer la porte dans Matthieu 6. Et moi, je vous dis, fermez, quand on dit de fermer la porte, et l'autre fois, quand nous sommes venus prier lundi pour la volonté de la direction de Dieu, on priait ensemble et le désir que le Saint-Esprit m'a dit, ferme la porte. Je suis sorti de la réunion, j'ai fermé les portes. Je crois qu'il faut qu'on ait cette prise de conscience de fermer la porte au monde pour pouvoir mettre Jésus en priorité. Trop de fois, nous mettons nos désirs et après Jésus. Non, mes frères, c'est pas. Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? De mettre d'abord Jésus en priorité, tes désirs en priorité, parce que je sais que tu as des plans de bonheur pour moi. Et je veux y rentrer, parce que je ne veux pas souffrir, mais je veux être heureux, je veux être heureuse. À combien devons-nous être pour prier, mes frères et sœurs. Que ce soit un, que ce soit en couple, que ce soit par équipe de frères en Christ qui cherchent la volonté de Dieu, que ce soit l'ensemble de l'Église. Regardez dans l'Livre des Actes des Apôtres, où tous les disciples, 120, étaient d'un commun accord, rompaient le pain et le vin et priaient en attendant la promesse de Dieu. Plus de 100 jours, ils ont attendu. Plus de 100 jours d'attendre que Dieu, la promesse que Jésus leur avait dit, s'accomplisse. Sommes-nous persévérants? Sommes-nous persévérants? Moi, j'ai encore à travailler là-dedans. Hein. Ouh là là, de persévérer. Et c'est ce point-là que je vais peut-être plus développer aujourd'hui pour vous, parce que pour moi, il m'a énormément parlé. C'est ce qui bloque nos prières. Parce que nous sommes des gentils, on va dire des gentils chrétiens, voilà, on nous dit de prier, on prie, etc., etc. Et beaucoup, 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 et là, j'ai en plus mon frère David, ce qui bloque nos prières. Ouais, ça sera, attendez, j'ai perdu ma page, excusez-moi. J'ai perdu ma page. Oui, voilà. Oui, voilà, excusez-moi. Ce qui bloque nos prières, il y a toute une liste dans la parole de Dieu. Moi, je me suis amusé à les lister et je ne vais pas vous les développer tous aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais essayer de rester le plus concis, le plus simple possible. Il y en a une dizaine. Et je suis sûr qu'en cherchant, on en trouvera d'autres. Et je vais en faire que trois. Je vais faire que trois points. Nous avons David. David lui-même va nous en parler dans les psaumes 66, de 17 à 20, où il lui-même va dire, tu connais les péchés cachés que j'ai dans mon cœur. Les péchés cachés sont une entrave à l'accomplissement des prières. Mes frères et sœurs, vous savez que Dieu peut lire à travers nous comme dans un livre ouvert. Si nous avons des péchés, la Bible le déclare que si tu as quelque chose contre ton frère, laisse-là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, ta sœur. Mets ta vie en conformité. Tu sais, par le Saint-Esprit, pas besoin de dire, le Saint-Esprit vous parle à vos cœurs et vous savez là où ça va pas. Comme je sais là où ça va pas dans ma vie aussi, hein. Les péchés cachés sont une entrave, empêchent, c'est ça qui est grave, empêchent Dieu d'agir. Moi, je vais vous dire une chose qui est pour moi fondamentale. Et je vais en choquer plus d'un là. Quand vous avez volé, alors voler, c'est pas forcément prendre de l'argent, mais c'est être pris un bonbon dans le placard qu'on n'avait pas le droit de prendre. C'est du vol. Quand vous avez menti, quand vous avez désiré la voiture, la femme, le mari, Dieu était là. Donc vous n'allez rien lui apprendre. Vous n'allez rien apprendre à Dieu, mais de dire vous libère. Mes frères et sœurs, tous les péchés depuis que vous êtes nés, que vous avez commis, donc une fois passés par la croix et les eaux du baptême, on n'en parle plus du passé, on parle d'aujourd'hui. Mais tout cela que l'on commet jour après jour, dans nos cœurs et dans nos pensées, dans nos actions, dans nos non-actions, Dieu est là, Dieu voit, Dieu sait. Donc, on ne va rien lui apprendre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu sait comment tu penses. Dieu sait à quel point tu peux des fois être raciste. Dieu sait à quel point tu peux être radin. Dieu sait à quel point tu manques d'amour pour ton prochain. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait quand tu as volé, quand tu as désiré, que tu as maudit celui qui t'a fait une queue de poisson sur la route et qui a failli te mettre dans le décor. Dieu sait. Dieu sait. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? La désobéissance dans Deutéronome 1, 45 et dans, on va prendre Samuel, 1 Samuel 28, de 6 à 7. Ce passage est terrible pour moi. Dans 1 Samuel, c'est Saül qui va consulter l'Éternel pour un combat. Et l'Éternel ne va pas lui répondre, vu qu'il commence à partir dans le décor. Mais quand vous lisez le suite du passage, ah bah Dieu répond pas, bah c'est pas grave. Je vais aller voir qui? Une qui consulte les morts. Il y en a combien qui consultent les horoscopes? En rigolant ou pas, hein? Il y en a combien qui consultent des marabouts? Combien consultent la météo? Pourtant, Jésus dans la barque, quand il a dit tais-toi, vent, et c'est tu, hein? Qui est-ce que nous consultons et qui est-ce que nous allons attendre qu'ils nous répondent? C'est terrible, hein, ce que je vous raconte. Et je crois que s'il y a une chose que j'aimerais vraiment et que je rencontre énormément, et quand je dis énormément, c'est énormément dans les frères et sœurs en Christ, dans différents lieux. C'est Matthieu 6, et là vraiment, on va le lire ensemble. Matthieu 6, 14, 15. Mes frères et sœurs, c'est Jésus qui parle, et c'est le serment sur la montagne. Matthieu 6, et si je vais appuyer dessus, c'est parce que trop souvent, je suis tombé en discussion avec des frères et sœurs, et ce point coinçait. En plus, on l'a chanté, merci Moïse, le pardon. Matthieu 6, 14, 15 dit, donc c'est Jésus, hein, dans le sermon sur la montagne, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, qu'est-ce qui se passe? Votre Père ne vous pardonnera pas. Tu veux être pardonné? Commence par pardonner. Tu veux être pardonné? Commence par pardonner. Il y a trop de gens qui retiennent. Oui, mais il m'a fait ceci. Oui, il m'a fait cela. ça bloque l'exaucement de vos prières, mes frères et sœurs. Votre manque de pardon. Et pourtant, il y en a certains qui ont vécu des choses terribles. Alors, je connais plus son nom, mais de cette famille qui a été déportée à Auschwitz, où le père, la mère, la sœur est morte, où ceux qui a fait périr, entre autres, cette famille, elle le re-rencontre plus tard dans une église. Et Dieu va lui demander de pardonner. Cette fille, qui était devenue une femme, Dieu va lui demander de pardonner d'être le bourreau de sa propre famille. Ça porte à réflexion, hein? Mais quelle grâce quand elle l'aura fait. Quelle grâce quand elle aura été capable de le faire. Et quelle souffrance cet homme a porté aussi. Il y a aussi un autre point qui est important et aussi qui, dans les prières, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Combien de fois j'ai demandé un paquebot avec piste d'hélicoptère à l'arrière et un compte en banque illimité pour faire de la chaise longue et de temps en temps peut-être parler de Jésus. Est-ce que vous croyez que ma prière va fonctionner? Il y a peu de chance. Par contre, si le Saint-Esprit me dit « Prie pour que, je sais pas, allez, t'as une voiture, un bon compte en banque et une belle voiture parce que tu vas aller prêcher la parole de Dieu chez les riches. » Là, je suis dans la volonté de Dieu. Je peux prier selon sa volonté. Mais parce que ma mission, c'est pas d'avoir la belle voiture ni le compte en banque. Mais c'est d'aller prêcher Jésus. C'est d'être là où le Seigneur veut qu'on soit. De prier selon la volonté de Dieu. Seigneur, alors déjà, en fait, tu veux que je prie dans quel sens, Seigneur? C'est ce que nous faisons tous les lundis, de 6 à 7 actuellement, nous quasiment un mois, où on cherche la volonté de Dieu seul. J'en ai rien à faire de savoir ce que moi je veux ce que lui veut. Parce que là est la bénédiction. Là est la provision, là est la réalisation de ses plans. Et donc, la joie, le bonheur et la grâce. Ça, c'est la parole de Dieu. Priez selon sa volonté, pas selon notre désir de la chair. Et un autre point, mes frères et sœurs. Combien de fois je l'ai entendu? On prie, et la personne juste après dit « Oui, mais c'est pas possible. » Mais pourquoi on a prié alors? Une chose terrible est arrivée dans une église où un aveugle est venu. C'était pas moi. Ils ont prié pour lui, et il a retrouvé la vue. Waouh, quelle grâce! Il a ouvert les yeux, il fait « Ah, c'est pas possible. » Fini. Il est aveugle jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes des freins à l'accomplissement de la grâce de Dieu dans nos vies. Ce que tu pries, qui est en conformité avec la parole de Dieu, crois qu'il va s'accomplir et ne lâche pas. Rappelle-le, Dieu, il est marqué dans ta parole que le juste ne mendiera pas son pain. Alors pourquoi j'ai des problèmes d'argent? Il va te répondre. Il va te répondre. Il y en a plus d'une dizaine, il y en a plus d'une dizaine de points qui peuvent empêcher l'accomplissement de vos prières, mes frères et sœurs. Je ne vais pas tous les énumérer, je vais vous dire, bonne recherche. Mais s'il y a une chose qui est bien, c'est que nous avons la solution en Jésus. Ah. Oh, merci Seigneur, parce que je peux vous dire, heureusement que j'ai mon Seigneur. Nous avons la solution en Jésus-Christ. Tu as la solution en Jésus-Christ. Et si tu as un frein dans ta prière, demande et Dieu te dira quel est ce frein. Soumets-le Soumis ta volonté et tes pensées à Dieu, et Dieu te donnera la solution. Nous n'avons pas un Dieu silencieux, nous avons un Dieu qui veut communiquer avec nous. Et une fois que, du coup, on a mis ces petites choses, ça va être le quatrième point, c'est le contenu de nos prières. Parce que certains, ils tournent un peu en rond dans leurs prières. Déjà, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Ce serait mon petit point, c'est qu'on peut tout dire à Dieu. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de caché devant lui. Donc, franchement, quand vous êtes dans votre chambre, comme je l'ai souvent expliqué même aux jeunes et à d'autres jeunes, moi, quand je prie, je ne change pas ma façon de parler. Enfin, tout du moins, je n'ai pas l'impression. Pour ceux qui sont avec moi à la prière, je pense que je ne change pas ma façon de parler. Mais je peux vous dire, si cette personne-là, je ne peux pas la piffrer, je dirais à Dieu, je ne peux pas la piffrer. Soyons vrais et parlons sans tabou à Dieu. Il sait tout, il a tout vu, il a tout entendu. Donc, se déverser devant Dieu sans tabou. C'est pas évident, hein? Il y a des choses, on a honte, hein? Ouais, il y a des choses, j'avais honte, hein, de le dire à Dieu. Quand j'avais des mauvais regards, etc. Mais de le déverser devant Dieu. De confesser nos péchés. Des fois, c'est confesser dans le lieu secret. Mais il y a des fois, c'est confesser à son épouse, si elle est chrétienne, ou à son époux, ou à un frère responsable qui va prier. Et qui ne va pas divulguer l'information. Ben, je vais vous divulguer une situation que j'avais extrêmement honte. Quelques-uns la connaissent. C'était un poids qui était dans ma vie que je ne me rendais même pas compte. Et dans mes temps personnels, justement, de prière, que je me levais. Donc dans cette période-là, je me levais à 4 heures du matin pour avoir 1 heure de prière avant de partir au travail. Dieu a révélé que j'avais une façon de regarder les femmes et qui était très honteuse. Je les regardais pour savoir ce qu'elles portaient comme sous-vêtements. Voilà. Donc c'était vraiment un regard dégradant, honteux. Et pendant longtemps, je l'ai confessé à Dieu dans le secret de ma chambre et je ne voyais que la chose ne bougeait pas. Ça s'en allait et ça revenait. Jusqu'au jour où j'ai pris mon courage et je l'ai dit à ma femme. Je dis, voilà chérie, j'ai un problème. Voilà comment, quand j'ai une femme devant moi, voilà comment je la regarde. Et on s'est mis à prier. Et Dieu, la fois suivante, dans ce temps de prière, m'en a libéré. Il m'a mis un ange sur mes yeux. À chaque fois qu'une dame se présentait, mes yeux partaient. Tout, qu'est-ce qui m'arrive? Mais sérieux, hein? Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et après, il me faisait penser à la prière que j'avais faite. Ah! Ah! Merci, mon Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'équilibre entre l'action du Saint-Esprit fait par les anges et ma volonté, peu à peu, ont basculé. Jusqu'à ce que, ou je reprenne les mauvaises habitudes, donc j'ouvre la porte à l'ennemi dans mon cœur, ou que doucement l'action du Saint-Esprit baisse, mais que je prenne autorité sur mon corps de maîtriser mes yeux. Et au jour d'aujourd'hui, je rends gloire encore et encore. Et vous savez quoi? Du coup, je me délecte de regarder ma femme. Et ça, c'est très bon. Ça évitera d'être tenté. Parce que sinon, on rentre dans le travers où, comme dans le peuple musulman ou d'autres choses, c'est toujours la faute de la femme. Et donc, moi, je me délaissais de ce problème-là. Non, j'ai un problème. Dieu, je te remets mon problème. Et si j'ai dû passer par le fait de devoir confesser mon problème, mais Dieu m'a donné la victoire sur mon problème. Et qu'est-ce que j'aime regarder mes frères, mes sœurs avec amour? Et correctement. savais même pas la souffrance que c'était pour moi. Je n'étais pas encore pasteur à cette époque-là. Mais voilà, je vous confesse quelque chose qui était horrible dans ma vie, ce qui me souillait et qui dégradait mes sœurs, qui ont tant de valeur. On peut apporter tous nos sujets, tous nos fardeaux, mais il ne faut pas les reprendre. Combien de fois, j'aimais bien cette histoire où c'était un couple, on me l'a rapporté cette histoire, ils avaient un sac qui marquait Dieu dans la cuisine, et quand ils avaient un sujet qui leur portait, ils le marquaient le sujet, et ils le mettaient dans le sac. Et quand l'époux ou l'épouse voulait revenir sur le sujet, il disait, bah, va le rechercher le sujet. Oh là là, non, non, non. Combien de fois nous reprenons, on a prié pour notre époux, notre épouse, de ci et ça, et on y revient, on y revient. Non, Seigneur, je te l'ai laissé. Si ton esprit me dit d'intercéder pour mon épouse, pour mon épouse, pour mon enfant, pour l'école, pour que sais-je, là on le fait parce que le Saint-Esprit nous le dit. Mais on ne reprend pas le sujet qu'on a confié. Combien dans ce chant que nous avons chanté, je te donne mon fardeau et je danse de joie. Mais combien de fois je pose mon fardeau, puis après, c'était un bon dimanche. Hein. Non, laisse ton fardeau. Dépose tes fardeaux à l'Éternel. Laisse-lui. Ne reprends pas. Mais par contre, prends ton identité en Christ. Prends ta position en Christ. Et ce que j'aime bien, c'est d'avoir l'assurance que Dieu entend et répond. Alors pour ça, je vais vous donner trois passages bibliques et j'ai un super frère qui va justement nous apporter, parce que la théorie c'est bien, mais le pratique c'est mieux. Donc j'ai mon frère David Loche qui va pouvoir apporter un témoignage justement sur le fait que Dieu répond quand on est dans sa volonté. Et pourtant, il y a des fois, sa volonté est vraiment bizarre. Pourquoi tu m'envoies là? Pourquoi tu me fais ci? Je vais vous donner quatre passages bibliques et comme ça, David va pouvoir arriver. C'est dans Jean 14, 7. Jean 14, 7. Psaume 34, 18. Psaume 34, 18. Matthieu 7, de 7 à 8. Et Luc 11, 10. Luc 11, 10. Je vous invite à noter et à les lire chez vous. Je laisse la place à David.
Comme ça, c'est bon? Ouais. Du coup, ouais, mon témoignage, c'est par rapport à la prière. Savoir écouter Dieu et bah, lui faire confiance, surtout, parce que des fois, il nous emmène dans des chemins, on se demande vraiment où est-ce qu'on va. On ne voit pas d'avenir. Donc, moi, ça a commencé déjà pour les études. Donc, j'avais fait un BTS en forge industrielle, en fait. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je pensais que mon avenir était là-dedans. Et puis, dans un concours de circonstances, je me suis retrouvé à faire un autre BTS en électrotechnique, qui était une matière qui ne me plaisait moins. J'avais pas envie d'y retourner en fait de base. Je me suis retrouvé avec ce deuxième diplôme. En fait, j'avais pas compris pourquoi Dieu m'avait réorienté sur une voie que je voulais pas. Donc bon, je fais mon BTS. Je me dis, si je te fais confiance, Seigneur, je sais que à la suite de ce deuxième diplôme c'est pas pour rien quoi. Si tu me donnes ces deux diplômes, c'est qu'à la fin il y a quelque chose. Je sors de mon BTS, je suis embauché en intérim dans une boîte de maintenance de nuit. Ça se passe hyper mal, c'est horrible. Là, je comprenais vraiment pas. Seigneur, j'ai suivi ta voie. Enfin, voilà, je comprends pas pourquoi tu m'amènes dans ce. dans ce métier où, enfin voilà, il y a beaucoup, enfin je souffre énormément quoi. Enfin, les gens m'apprécient, mais au niveau du métier, moi là maintenant, j'avais vraiment du mal. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Puis j'ai reçu une pensée en fait pendant cette période-là, où c'était simplement me dire quel serait mon métier idéal. Donc je m'étais fait une petite liste, je m'étais dit déjà travailler de jour, être proche de la maison, avoir une bonne ambiance avec les collègues, et puis, voilà. Puis après j'ai commencé à prier dans ce sens-là, je me suis dit tiens Seigneur, voilà, je te remets ma petite liste de ce que je voudrais, mais le plus important dans tout ça, c'est que j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu m'as fait faire deux BTS, deux études différentes qui n'ont rien à voir. Donc voilà, une semaine se passe, et puis là j'arrive au jour, on va dire, le pire de ma vie. Il y a tout qui ne va pas, il y a une intervention que je dois faire, j'arrive pas à la faire à temps, le matin se lève, les équipes commencent à reprendre le boulot, la machine n'est toujours pas en marche, enfin c'était une nuit atroce. Puis au bout d'un moment je me pose pendant une pause, à la fin en fait, quand j'ai fini le travail. Je m'assois, je prends un petit temps avec le Seigneur, je dis Seigneur, j'ai trouvé ça vraiment, enfin, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que tu veux pour moi. Et donc à ce moment-là, j'ai reçu d'ouvrir en fait une page internet où on avait tous les anciens élèves de Forge qui étaient réunis. Et en ouvrant cette page, en fait, je tombe sur la toute première offre d'emploi qui était un travail de jour à Montataire, dans un poste de recherche, on aurait besoin de quelqu'un qui a un BTS électrotechnique ou un BTS forge ou un BTS mécanique. Et là, je me suis dit, c'est marrant, parce que j'ai deux BTS et j'ai passé mon entretien. Ils m'ont pris, ils ont créé un poste spécial pour moi parce qu'ils avaient déjà pris quelqu'un comme j'avais postulé en retard. Donc, ils ont rouvert un autre poste exprès pour moi. Et ils m'ont pris parce que j'avais mes deux BTS. Ils se sont dit, en fait, comme notre métier, c'est dans la recherche, mais c'est le métal, c'est... les presses industrielles, etc. Mais on a besoin de quelqu'un aussi qui sache toucher à l'électricité, qui puisse faire des consignations et intervenir sur les machines quand il y a des soucis. Et j'étais vachement... Maintenant, je suis vachement épanoui dans mon métier. Donc, ça fait 3 ans maintenant que j'y suis. Mais j'ai eu cette période difficile où, un peu incertaine, il faut quand même faire confiance à Dieu, il faut toujours le remercier quoi qu'il arrive, toujours dire Seigneur, je sais pas où est-ce que je vais, mais voilà, je te fais confiance, moi je suis au pied du mur, toi tu vois ce qu'il y a au-delà du mur, et je crois que c'est toi qui le disais Moïse, je suis plus sûr, ou comme quoi c'était flou au loin, et que nous on y va quand même, voilà. Donc persévérez dans vos prières quoi qu'il arrive, et surtout écoutez Dieu, et restez à l'écoute, et voilà. Ne priez pas que quand il y a des gens, priez aussi et surtout quand vous êtes seul, prenez du temps, c'est très important. Voilà.
Amen. Voilà. Dieu, pourquoi tu me fais passer par là? Faisons confiance à Dieu et ses plans sont parfaits. C'est quand même extraordinaire de faire deux métiers complètement différents, mais parce que Dieu savait que dans cette entreprise, il y avait besoin de ces deux. Et puis aussi, il lui a donné l'intelligence de réussir les deux BTS. Gloire à Dieu! Ouais, sans tabou. Merci Seigneur. Après, je peux vous encourager pour la prière. On a des exemples dans la parole de Dieu. Donc, bien sûr, le Notre Père dans Matthieu 6, de 10 à 13. On a aussi une prière qui pour moi, me parle beaucoup. Parce qu'en fait, toutes les prières sont bonnes. Le Notre Père, ça pourrait être un message aussi. Ça pourrait être une étude de comment il est construit, etc., etc., mais ce serait trop long. On a aussi, j'aime beaucoup, c'est dans 1 Samuel 1, de 9 à 28, la prière d'Anne. Cette prière de cœur qui se déverse devant Dieu, de toutes les souffrances, de tout ce qu'elle a. Et que Dieu, elle va tellement prier qu'en plus, elle va être méprisée. On va lui dire, oh, quand tu auras fini d'être saoul, tu pourras revenir prier. Non, je ne suis pas saoul, Seigneur. Le regard extérieur, une prière tellement intense. Et comme je vous ai dit au début, j'aime la louange parce que c'est aussi une prière. Prier, c'est parler. Et quand on chante les louanges, on parle à Dieu. Quand on dit, tu es grand Seigneur, notre Dieu, notre Père, je lui dis que tu es grand, mon Dieu, mon Père. C'est un moyen qui est tellement extraordinaire qui nous est donné quand nous avons du mal à prier. Il y a deux moyens quand nous sommes accablés, c'est la prière en langue et la louange. C'est le moyen de déconnecter notre cerveau pour permettre à Dieu de rentrer et de reconnecter ce lien. La louange qui se transforme en adoration, de reconnaissance. C'est un moyen de se connecter. Mot très à la mode maintenant. On se connecte sur Dieu. De se connecter à Dieu. Regardez ce monde, comment il est rempli de musique. Ça a commencé avec les baladeurs, les fameux Walkman. Maintenant, il y a eu les iPods. Maintenant, c'est carrément dans vos téléphones, avec des écouteurs sans fil. Le monde ne supporte pas le silence. Et regardez la diversité de musique qui existe, qui ne rend pas gloire à Dieu. Le monde en est rempli. Mais je vais vous dire, ce n'est pas étonnant, vu que le responsable de la louange à la base, c'était Satan. Il connaît la puissance de la louange. Pourquoi? Parce que Dieu demeure dans la louange de son peuple. Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple. Le nombre de fois que nous chantons autre chose, que nous écoutons autre chose et qui pénètre en nous, combien de fois je suis sorti en disant, mais pourquoi je chante cette chanson? Parce que j'étais au supermarché ou autre chose. Mais pourquoi je chante cette chanson? Elle rend pas gloire à Dieu. Et comment c'est dur de s'en décrocher. Ça vous est jamais arrivé, vous? Je dis, mais c'est pas possible. Et moi, j'ai un point d'ordre au jour d'aujourd'hui, c'est que quand je me couche, je veux que mon esprit loue Dieu. Je veux pas qu'il y ait une musique du monde qui tourne dans ma tête. Parce que toute la nuit, mon esprit va louer Dieu. Et j'aime quand je me réveille et que mon esprit loue Dieu. Waouh! Et là, déjà, je commence bien la journée. J'ai pas mis un pied par terre, je suis encore sous les couvertures, mais je commence bien la journée. Combien de fois j'ai des musiques du monde? Il y en a dans le monde qui ne sont pas trop mal inspirés pour autant. Mais faisons attention. Ouais. L'effet de la louange. Ouais. Ça change nos sentiments. Ça apaise nos cœurs. Ça nous donne de la joie. Et ça nous redonne de l'espérance. Et en plus, ça lui permet de s'approcher de lui. C'est extraordinaire. Vous ne savez pas quoi prier? Eh bien, prenez un chant et commencez à le chanter. Combien de fois, moi, je suis resté sur juste une phrase? Et toute la journée, je n'ai proclamé que cette phrase. Qu'une phrase. Mais mon âme bénit l'Éternel. De rentrer, de chercher sa présence. Seigneur, tu m'as créé pour te louer, donc je veux te louer. Entrer dans sa présence et de le louer pour qui il est, pour ce qu'il a fait. De se décentrer de notre nombril et de regarder. Vous savez, moi combien de fois je me mets dans mon salon et je le dis, je regarde ma femme. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je regarde mes enfants, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Puis je regarde la maison, waouh, Mais tout ça, c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui me l'as donné. D'avoir un travail qui permet de subvenir à tous nos besoins. Nous manquons de rien. Waouh! Quand je suis malade, tu es là et tu me soutiens. Des fois, de s'arrêter un petit peu et de faire un petit point avec Jésus, c'est intéressant. De laisser le Saint-Esprit nous parler. Et quand il vous parle, et ben là, on peut dire, ouais, Seigneur, t'es bon. Vous êtes en train de prier. Vous êtes en train de prier, du coup. Quand vous asseyez et que vous regardez, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Mais tu es en train de prier. Quand vous avez un bon repas sur la table, que votre époux ou votre épouse, parce que nous, on n'est pas macho, waouh, Seigneur, quel talent tu lui as donné. Quelle imagination, parce que les repas, qu'est-ce que ça revient souvent. C'est extraordinaire. On n'est pas à Madagascar où de toute façon le repas c'est facile, c'est du riz. Dès qu'on s'est mangé jusqu'à ce qu'on meure. Non. Tout ce que nous avons à profusion dans les supermarchés. Et tout ça, c'est qui les a créés? C'est toi, papa. Et qui a pris aux hommes de les transformer pour en faire ou du sucré, du salé, du... entre les deux. Mais c'est toi, papa. Et là, vous commencez à prier. Vous commencez à le remercier. C'est extraordinaire. Ouais. J'ai un exemple que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu et que les enfants, ils aiment bien en général. C'est dans Actes 16, de 19 à 26. Actes 16, 19 à 26, où les disciples ont été emmenés en prison. Alors je vous dresse le tableau quand même, parce que nous, prison, c'est limite un hôtel 4 étoiles. Alors, une prison de l'époque, vous êtes dans les sous-sols, donc c'est très humide. Avec un peu de chance, vous pouvez mourir de malaria. Il n'y a pas de sanitaire, donc vos besoins, c'est même le sol. Donc vous avez les odeurs. Vous êtes enchaîné avec des fers. Et vous n'avez pas de lumière. Ça va, le contexte est sympathique. C'est qui dit OK pour ça? Il n'y a pas de main qui se lève? Ça ne vous tente pas un petit séjour en prison comme ça? Et pourtant, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à louer Dieu. Et ils vont louer Dieu à tel point que l'ensemble de la prison vont se mettre à écouter. Ils ne vont plus critiquer, ils ne vont plus parler, ils vont écouter et ça va apaiser. Et ils vont louer Dieu pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'ils sont là, mais pour ce qu'il est, le Dieu créateur, qui leur a donné une espérance en Jésus-Christ et que leur place est à la droite du Père et que, de toute façon, qu'ils meurent maintenant ou plus tard, ils seront avec Dieu. Waouh! Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, la terre va trembler, les fondements, donc c'est sous terre, vont être ébranlés, les portes vont s'ouvrir, les fers, pourquoi les fers? Donc c'est bien une action spirituelle, les fers vont tomber et personne ne va s'échapper. Parce qu'ils louaient Dieu, parce qu'ils ont mis la présence de Dieu dans un lieu improbable, dans un endroit qui puait, un endroit où il n'y avait que des gens de mauvaise vie, ou des gens qui étaient accusés à tort aussi, parce que ça existait déjà à l'époque. Mais ils ont loué Dieu, et la présence de Dieu a tout ébranlé. Ils ont loué Dieu. Ah. Alors je voudrais conclure, et donc réinviter les musiciens de ce fait. Il n'y a ni ombre de variation en notre Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a ni ombre de variation en notre Dieu. Il n'a pas changé. Et il ne change pas. Notre Dieu veut toujours dialoguer avec nous, comme il le faisait au temps d'Adam et Ève, où Dieu descendait dans le jardin et il se baladait. Alors, t'as fait quoi de beau aujourd'hui? Oh, regarde, j'ai trouvé cette plante-là. Ah ouais, dis donc. Et c'est toi qui l'as créée. C'est vachement beau quand même. Il n'a pas changé. Il veut toujours passer du temps avec toi. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait où tu dois aller, ce qui bloque dans ta vie. Mais il a les solutions. Il veut t'emmener dans sa présence. Il veut t'emmener dans la gloire de sa présence. Il veut t'emmener là où Dieu réside, où il y a tout en plénitude. Dans 1 Thessaloniciens 5, de 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Rendez grâce en toutes choses, mes frères et sœurs. C'est de la persévérance de demeurer dans sa présence. De ne pas regarder aux circonstances, mais de demeurer dans sa présence. Parce que nous avons une certitude en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a cette expression que j'aime beaucoup, la prière et la respiration de l'âme. Combien, mes frères et sœurs, sommes-nous en apnée spirituelle? Je vous conjure par notre Seigneur Jésus-Christ de chercher cette relation avec Dieu, de ranimer l'esprit de prière, où Dieu a des solutions pour chacun, mais aussi des solutions pour cette église, mais des solutions aussi pour notre ville, des solutions, etc., etc. Mais c'est en le cherchant lui, que nous allons pouvoir avoir. Si nous nous détournons de nos nombrils, mais si nous commençons à chercher ce que Dieu veut, les choses bougeront. Nous vivrons des miracles spirituels, physiques, émotionnels, familiales, de vivre la vérité de sa parole, de chercher Dieu, de crier à lui, de crier ses souffrances. Ah oh oui, Seigneur, tu es bon. Doucement. Commencez. Gloire à toi, Seigneur. Eh bien, Seigneur, par rapport à cela, vraiment, je voudrais vous encourager. J'ai pris ce chant qui, je pense, qui est intéressant. On va déjà le projeter, tiens, justement, si ça ne vous dérange pas la technique. Créateur et Père, déploie ton plan souverain. Que ce soit dans notre vie, que ce soit dans l'Église, que ce soit sur notre pays, pour libérer ton pays. Car la création soupire après la révélation. Répand la puissance de ton onction. Seigneur, fais-le maintenant et que ta gloire descende dans ce lieu. Mais que ta gloire descende dans vos vies, que ta gloire descende dans vos situations, que ta gloire puisse se révéler, pas que de théorie, mais de vie et de victoire. Vous avez tant de valeur, mes frères et sœurs. Jésus est mort pour vous. Il a donné sa vie sans hésiter pour toi. Il n'a pas rechigné. Il a dit quoi? Pas ma volonté, mais ta volonté seule. Ta volonté seule, Père. Mes frères et sœurs, cherchons Dieu, mais vraiment de tout notre cœur.